Frères et sœurs, les amis, nous écoutons ce 14e dimanche du temps ordinaire et nous accueillons, toujours dans l'évangile de saint Marc, la parole de Dieu. Je vous ai rappelé déjà dimanche dernier combien Marc comme Luc, saint Marc comme saint Luc, sont très soucieux du détail et de la description. Ils nous annoncent que Jésus est parti pour son pays. Voilà donc que Jésus retourne dans son pays, à Nazareth. Je suis, pour ma part, et je le partage avec vous, interpellé, comme on dit aujourd'hui, par trois verbes. Enseigner. Il se mit à enseigner dans la synagogue. Deuxième verbe, frapper. Frapper d'étonnement. Et le troisième verbe, choqué. Voilà donc que les auditeurs sont frappés d'étonnement par l'enseignement de Jésus. Donc il faut se replacer dans le contexte. On imagine bien que le Christ a une parole innovante, on dirait aujourd'hui, et qui engendre des questions. Ce sont les questions que saint Marc nous rapporte dans l'évangile d'aujourd'hui. D'où vient-il? Quelle est cette sagesse? Les miracles qu'il a réalisés? Et puis tout d'un coup, on dit, mais comment cela se fait-il? Il n'est que le fils de Marie, le charpentier. Et ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Alors ne soyons pas trop sévères avec cette foule ou ces personnes qui se posent des questions. Nous aussi, nous devons nous poser des questions, c'est le propre même de l'intelligence. Mais ces questions choquent. Ils étaient profondément choqués à cause de lui. Alors, que retirer comme enseignement de ces quelques versets de saint Marc aujourd'hui? Voilà la question et l'unique question que nous allons nous poser. Bien, je répondrai qu'il est important et qu'il était important que dans les évangiles, l'humanité du Christ soit bien, bien soulignée. J'allais dire à notre époque, ce serait plutôt sa divinité qui serait mise en doute. Combien de fois nous avons entendu au sujet de saint Jean-Paul II, nous aimons bien la chanson, parfois, mais nous préférons le personnage, ou nous aimons le personnage et pas la chanson. C'est exactement la même chose qui se pose comme remarque ou comme critique à l'égard du Christ en son temps. Alors, il faut quand même bien se rappeler qu'il y a un temps qui n'est pas si lointain que cela, où l'on tenait tant à préserver la divinité du Christ que son humanité, et tout cela en devenait assez gênant. Alors, l'histoire de l'Église nous rappelle que un concile œcuménique, le concile de Chalcédoine, en 451, s'est penché sur cette question de la divinité, de l'humanité du Christ, parce que c'est cela qui est au cœur de l'évangile d'aujourd'hui. Ce concile a donc pris la peine de définir la foi chrétienne en proclamant que Jésus était vraiment Dieu et vraiment homme, participant à tout ce qui fait la divinité du Père et participant à tout ce qui fait notre humanité, à l'exception du péché. Alors, si un concile œcuménique a éprouvé et trouvé le besoin de réaffirmer avec beaucoup de force cette humanité, cette divinité, c'est qu'il y a toujours eu, la tentation dans la nature humaine, chez l'homme, de séparer Jésus, fils de Dieu, et Jésus, l'homme que nous connaissons. Et le Concile précisait même qu'il fallait confesser Jésus, vrai Dieu et vrai homme, sans séparation ni confusion. Là, le Concile est très clair. Alors, non seulement je crois que c'est fondamental et c'est très important, parce que le mystère de l'incarnation que nous fêtons chaque année à Noël, Fils unique de Dieu, 100% homme, 100% Dieu, qui vient parmi nous s'immerger dans notre nature, dans notre monde, autrement dit dans sa création, il n'a pas fait semblant d'être homme. Il n'était pas ni un fantôme, ni un ange, il est véritablement homme. Et cette doctrine du Concile de Chalcédoine, que je viens de rappeler, puise sa sève, ou trouve sa source, comme vous voulez, dans notre évangile d'aujourd'hui. Les Nazaréens reconnaissent en Jésus à la fois qu'il a une sagesse, nous venons de l'entendre, qu'il a également un pouvoir, puisque il a opéré des miracles, et qu'il est fils du charpentier. Il faut bien retenir en définitive cela. Ils reconnaissent en la personne du Christ sa sagesse, le pouvoir de faire des miracles, et qu'il est fils du charpentier. L'humanité de Jésus est donc bien réelle, et c'est à ce prix qu'il sauve notre humanité. Comment pourrions-nous imaginer un Dieu qui serait assis sur son trône céleste et qui donnerait des ordres ainsi aux petits humains que nous sommes, en se posant la question de savoir s'il faut les sauver ou pas, comme ça de manière tout à fait extérieure, comme pour appliquer, je ne sais trop, quel principe. C'est cela que je trouve très fort dans notre religion chrétienne, catholique, c'est que il ne s'agit plus du discours, il ne s'agit plus même de donner de définition. Le Fils unique de Dieu est venu, donc des actes concrets, et il est venu non pas sous une apparence quelconque, mais il a pris notre humanité. Il a pris notre humanité. Et c'est justement parce qu'il a pris notre humanité que les êtres humains que nous sommes sont appelés à leur tour à participer, puisque nous avons la même humanité que le Christ, sauf que le Christ, lui, n'a jamais péché et que nous sommes pécheurs. Et c'est cela qui nous fait être en communauté d'humanité avec le Christ. Ça me semble très important. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut à la fois rappeler ce que vient de dire le Concile de Chalcédoine et que je vous ai rappelé, mais affirmer qu'il est né d'une femme, qu'il a souffert comme tout être humain, comme chacun de nous, qu'il a eu des joies, des peines, qu'il est vraiment mort et qu'il est vraiment ressuscité dans sa chair mortelle. Ta chair est morte comme la nôtre. Nous mourrons tous un jour, bien évidemment. Et nous, qui ne sommes que fils de charpentier dont la famille est connue, voilà que nous sommes, par son humanité, par l'humanité du Christ, appelé à la même gloire. Voyez-vous, à partir du moment où nous affirmons cette humanité, que cette humanité est venue partager les mêmes conditions, les mêmes imprévus que nous vivons tous, les uns et les autres, que le Seigneur n'a pas fait semblant de mourir et qu'il est mort comme chacun, chacune d'entre nous, nous le serons un jour, et qu'il est ressuscité. Est-ce que, franchement, ressuscitant dans sa propre humanité, il allait arrêter, j'allais dire, le processus, la logique même, pour l'être humain que nous sommes. Donc on voit bien que théologiquement, c'est l'humanité du Christ, parce qu'elle est ressuscitée. Nous sommes, nous, dans notre humanité, partagés avec lui, appelés à la même résurrection, et j'allais dire à la même gloire, et à participer à la même gloire que celle que le Christ offre à son Père. Je crois que nous ne mesurerons jamais ce génie de Dieu d'être venu dans notre humanité, la partager en tout point, à l'exception du péché. Et il nous fait cette délicatesse à la fois pédagogique, spirituelle et théologique, de rester parmi nous, sous les apparences du pain et du vin, dans l'Eucharistie que nous allons maintenant partager. Amen.